Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Timothée Mémon.
De retour dans l'after, 22h41, on continue de parler de la Coupe de France, mais cette fois des vainqueurs annexes, on va dire, de cette finale. Je parle évidemment de l'OGC Nice. Le stade de Reims également peut se frotter les mains. Il attend maintenant la semaine prochaine. Si le Paris Saint-Germain s'impose, les Rémois seront européens la saison prochaine. Mais les premiers gagnants de cette finale, ce sont donc les joueurs de l'OGC Nice. Messieurs, l'OGC Nice est en train de construire un projet avec le groupe Ineos derrière, avec Daniel Radcliffe. C'est l'acteur. Je vais retrouver son nom. Paul Radcliffe. Non plus. Bon, ça va revenir. Monsieur Radcliffe, ça va me revenir. Jim Radcliffe. Merci beaucoup à Geoffrey Charpie, à qui rien n'échappe. Messieurs, c'est une bonne nouvelle pour accélérer un petit peu ce projet côté niçois, une première saison européenne.
C'est-à-dire que moi, j'espère qu'ils vont profiter de ça, peut-être justement pour changer un peu plus rapidement de dimension. L'objectif de chaque club, c'est d'être européen. Allez, on va être européen parce que cette Europa League, ça va nous donner une exposition médiatique, ça va valoriser nos joueurs éventuellement, ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand je vois aujourd'hui l'effectif niçois, alors ils ont fait un mercato jusqu'à présent avec Camara arrière gauche qui sur les matchs amicaux d'ailleurs a toujours les promesses placées en lui et répond présent. Mais la plus grosse recrue derrière, donc t'as Schneiderlin, oui, lui, voilà, il est habitué aux joutes européennes. Mais derrière, c'est Goury, je crois, l'une des
Amine
plus grosses recrues.
Et il y a 19 ans. Rodson Bambou et Flavius Danilhuit.
Voilà. Donc, t'as cette opportunité, t'as le projet, bien sûr, de prendre des jeunes, de les valoriser, de les amener dans un projet dans 2-3 ans à du haut niveau. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être l'occasion aussi d'arrêter de faire de la figuration en Europa League. C'est-à-dire, si tu joues cette Europa League, essaye de donner des armes à ton équipe, de donner des armes à ton entraîneur pour bien figurer dans cette Europa League. Je veux dire, alors oui, t'as l'exemple la saison dernière de Rennes qui joue l'Europa League et qui fait une bonne saison en Ligue 1. Bah, tant mieux. Mais au-delà de ça, en Europa League, à chaque fois, on se plaint que nos clubs soient ridicules. Parce qu'ils gagnent pas un match, parce qu'ils prennent sa part de l'argent, parce qu'ils ont pas un effectif conséquent. Je t'annonce qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'il y a à Nice, t'as que des jeunes, t'as deux, trois joueurs expérimentés dans les lignes. Mais c'est insuffisant pour jouer une Europa League. Aujourd'hui, contre le Standard, ça a été compliqué, malgré tout, pour Nice de se créer des occasions, de faire du jeu, ainsi de suite. Donc il faut vraiment augmenter le niveau de l'effectif niçois.
Bah, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'OGC Nice de jouer l'Europa League, qui est quand même une très très belle compétition, qui passe en plus sur une très très belle chaîne pendant encore au moins une saison, hein, qui est bien sûr sur RMC Sport. Mais c'est l'année de la vérité quand même pour le projet niçois, et en particulier pour Patrick Vieira. Parce que cette fois, moi, j'ai souvent été indulgent avec Patrick Vieira, parce que je suis complètement d'accord avec Damien. Alors Jonathan a un autre point de vue et on le respecte, mais il est d'ailleurs d'accord avec beaucoup de supporters niçois avec qui j'ai pu discuter, qui partent du principe que certes, il n'y a pas un bon niveau dans cet effectif et que c'est pas flamboyant. Par contre, ils prennent l'exemple de Puel dont on a parlé, et bien sûr d'un entraîneur qui est encore d'un autre calibre, Favre, pour dire que ce sont des entraîneurs qui avaient en tout cas l'impression de faire progresser les jeunes niçois, de faire progresser les joueurs qui portaient ce maillot rouge et noir. Avec Patrick Vieira, maintenant, ça fait plusieurs années qu'il est là, il va falloir quand même que son équipe propose un peu plus dans le jeu, même s'il a que des jeunes joueurs, il a accepté d'être dans ce projet-là, donc tout le monde le sait, c'est l'année ou jamais pour lui, et c'est également l'année ou jamais pour l'OGC Nice de passer un cap, même si je finirai par dire que l'objectif niçois, en vrai, c'est quoi? C'est de finir entre la 5e et la 7e place. Parce que tu vois vraiment l'OGC Nice aujourd'hui, d'où ils partent, passer devant Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Lille, voire même Rennes. C'est très compliqué.
Mais regarde, tu dis 5e, là ils ont fini 5e cette saison, ils ont fini 6e la saison dernière. Au bout d'un moment, c'est monstrueux avec un effectif, et je le répète, avec un effectif de post-formation en soi jusqu'à présent. Alors, On va peut-être parler plus tard des matchs amicaux qu'il y a eu cet après-midi, mais on a eu la chance d'ailleurs avec Kevin de commenter la Veolia Cup où il y a eu Lyon, le Celtic, Glasgow Rangers et Nice. Et donc j'ai commenté ces deux matchs de Nice. Ah, mais je t'annonce que Nice, quand pour ressortir le ballon et tout jusqu'aux 30 mètres, c'est bien, c'est beau, ça se passe bien. Mais t'as combien de frappes? Combien de frappes tu as pour aller marquer? Combien d'opportunités d'occasions de but tu as? Et c'est là où alors on parle de Dolberg. Dolberg, oui, meilleur buteur la saison dernière de l'OGC Nice. Mais au bout d'un moment, Dolberg, il est bien gentil. Mais si tu veux valoriser le joueur, faut peut-être lui mettre du monde sur les côtés qui vont aussi lui amener le ballon, qui vont marquer des buts pour le libérer. Et puis Dolberg, il a un certain âge maintenant. Il a quel âge, Kevin? Je sais pas. Il a fait l'Europa League avec l'Ajax. L'Ajax l'a laissé partir. C'est peut-être qu'il y a des raisons aussi à un moment donné.
Il a 22 ans.
Il faut peut-être qu'il se bouge un peu plus aussi maintenant.
Ouais, c'est un joueur qui doit vraiment se faire violence parce qu'il a une tendance à disparaître pendant les matchs et ça c'est vraiment un avant-centre. C'est pas un joueur, il peut décrocher et faire jouer son équipe. Il a la qualité technique, mais c'est quand même un finisseur hors pair. Maintenant, tout finisseur qu'il est, forcément, les Trezeguet, les Inzaghi, les grands finisseurs, ils avaient forcément besoin d'une équipe pour leur donner de bons ballons. Et Kasper Dolberg, ça fait partie de ces joueurs-là. Et on sait qu'aujourd'hui, à Nice, il y a un manque de qualité. Mais encore une fois, et je l'entends, les supporters niçois te répondront que pour eux, c'est aussi à l'entraîneur, et c'est vrai, c'est aussi à l'entraîneur, de mettre en place des schémas de jeu qui mettent en valeur les joueurs qu'il a dans son effectif.
C'est vrai qu'on prend un exemple, Lucien Favre, quand il était là, il avait quand même Balotelli, et il avait Dante qui avait 3 ans de moins, qui avait 31, 32 ans à cette époque-là. Il a fini 3e, c'est quand même une saison miraculeuse quand il finit à cette place-là, et derrière il finit 8e aussi.
Et puis de toute façon personne ne dit que Lucien Favre n'est pas un des meilleurs entraîneurs des 10 dernières années qu'on a vu en Ligue 1.
Mais juste pour compléter une dernière chose, c'est que aujourd'hui là maintenant le GC Nice a des bons jeunes, maintenant il faut qu'ils soient bonifiés par des joueurs d'expérience autour les encadrer.
Kondogbia, c'est très bien.
11 buts en 23 matchs pour Kasper Dolberg la saison dernière. On est avec Eric qui est supporter niçois qui nous a appelé au 32-16. Salut Eric, comment ça va?
Oui, bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci.
Salut, Eric. Alors Eric, t'es venu nous parler du Mercato, simplement pour te dire que tout à l'heure, chez nos excellents confrères d'Europe 1, Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, s'est exprimé sur le Mercato. On lui posait la question de savoir si cette qualification allait changer quelque chose. Non, le Mercato se prépare en amont, cela fait de longs mois que l'on travaille sur le sujet, on a besoin de compléter notre effectif et de faire quelques départs. Pas de folie par rapport à cette qualification en Europa League, besoin de compléter l'équipe sur le plan offensif, on ne va pas changer nos plans avec un effectif assez jeune. Voilà les propos de Jean-Pierre River chez nos confrères d'Europe 1. Eric, pour toi, s'il y a Europa League, s'il y a une compétition de plus, qui on le sait est énergivore, c'est match le jeudi avec souvent un match le dimanche qui suit, il va falloir augmenter un petit peu l'effectif?
C'est inévitable. Parce qu'à l'heure qu'il est, sans jouer l'Europa League, il manque au moins deux voire trois joueurs, un petit peu pour vraiment bonifier l'effectif, parce que on a fait des bons paris sur des bambous, Dani Luc, mais il faut un petit peu d'expérience, hormis Schneiderlin, donc il en faut au moins trois, je pense. Si maintenant on joue la Coupe d'Europe, il va falloir étoffer le banc. Et donc après, les propos de River, ça reste du River, on le connaît depuis maintenant des années qu'il parle dans les médias. Donc il n'y a que ceux qui ont envie d'y croire qui y croient, parce que je ne crois pas que River se contente de prendre des jeunes à fort potentiel et aller à l'Europa League avec la fleur au fusil, quoi.
Ouais, il complète, je le rends complètement, et il te faut vraiment, au moins sur le plan offensif, il te faut autre chose que ce que tu as actuellement, sinon tu t'en sors pas. Et si tu vas jouer juste la Ligue 1 avec l'effectif actuel, tu seras déjà short en qualité et en quantité.
Il faut
vraiment 2-3 joueurs mais qui t'amènent vraiment cette plus-value.
Une des plus-values et un des axes d'amélioration. Est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il faudra un passeur aussi, un joueur qui est un passeur de plus?
C'est un vrai numéro 10 qui manque dans une équipe.
Alors que le GC Nice,
mais les équipes 3/4 du championnat français, pas de numéro 10.
Dis-moi si je me trompe, Eric, mais il me semble qu'en plus le GC Nice ne compte plus spécialement sur Willian Cyprien, qui avait quand même cette qualité de passe un peu au-dessus de la moyenne du reste de l'effectif.
C'est pas numéro 10.
Non, mais je parle pas d'un numéro 10. Ouais, on parle d'un, d'un joueur capable de faire des passes. C'est vrai que des numéros 10 à l'ancienne
n'existent
plus trop dans le foot français. Il y en a, deux, trois joueurs
qui sont capables de créer quelque chose. Parce que ce qu'on peut voir là, quand on regarde les matchs de l'OGC Nice,
c'est
stéréotypé. En fait, tout est prévisible. Il n'y a pas ce coup de folie, cet instinct.
Ouais, mais depuis 2 ans, c'est comme ça. On découvre là, mais depuis 2 ans, il n'y a pas de jeu à Nice. On a eu du cul de finir 5e grâce au Socotian, parce que c'est un hold-up, parce que si le championnat allait à 38e, je ne suis pas sûr qu'on finisse 5e, vu le jeu qu'on a vu. Déjà, premier point. On a du cul que Paris était nul hier soir et que Saint-Etienne, s'ils avaient cru un peu plus ou s'il n'y avait pas eu cette faute bête, ben, je ne sais pas si Paris aurait vraiment gagné sa coupe. Donc, on a tous les voyants qui ont été favorables pour nous cette année. Mais on n'a que du cul. Et je suis l'auditeur avant qui disait avec Fabre, on finit miraculeusement 3e. Je sais pas, mais moi je me suis plus régalé avec Fabre et Puel qu'avec Vieira. Hein. Faut arrêter 5 minutes.
Dans la déclaration de Jean-Pierre Rivère, il met en avant le fait de vouloir peut-être compléter son effectif sur le plan offensif. Moi, ce qui me saute aux yeux quand je vois Nice jouer ses matchs amicaux, c'est une certaine fébrilité défensive. J'ai bien aimé Dani Luic. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. On va apprendre à le prononcer. Il va falloir faire ça vite.
Flavius,
c'est bien. Mais Robson Bambou, je trouve qu'il a mis un peu de temps à s'adapter. Et puis Dante, on pouvait s'en douter, il y a l'âge qui le rattrape aussi. Hein.
Bien sûr, mais il faut un défenseur central.
Vif.
Les ailes, c'est couvert. Et puis, je pense, un 10. Alors, Ronny Lopez, qui va très certainement arriver.
C'est exactement ce qu'il leur faut. Voilà, comme je te disais, un passeur.
Un 10, ben ouais, mais bon, le foot, il y a un numéro 10 qui distribue. Je suis désolé, ça n'existe plus parce que maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est la nouvelle mode, on n'a plus de numéro 10. Mais je sais pas, le foot, c'est le numéro 10.
Aujourd'hui, les numéros 10, ils jouent plus milieu relayeur, tu vois. C'est des joueurs comme Verratti, c'est des joueurs qui sont un peu plus bas sur le terrain.
C'est parce que, mon pauvre Eric, moi aussi, je suis un amoureux du 4-4-2 avec un milieu en losange, mais ça n'existe plus, à part quelques équipes, le Werder Bremen de Thomas Schaaf, voilà.
Ça n'existe plus parce que les mecs, ils ne savent pas le maîtriser, peut-être.
Bah vous avez eu Schneider,
On veut prendre le risque défensif de mettre qu'un seul 6.
Il est plus en boîte que jouer au ballon. Faut arrêter, il était là pour aller en boîte, Schneider. Il n'est pas là pour jouer au foot.
C'était pour sourire.
Enfin, je sais pas, moi je suis peut-être un.
Non, mais après, Eric, dans des 4-3-3, type Barça, forcément, parce que c'est la référence en 4-3-3, bon, bah, t'as un Messi qui joue côté droit, qui est en soi un numéro 10, qui rentre dans l'axe.
Pardon, tous les 20 ans
de
Messi, hein.
Non, je te donne juste un exemple, une comparaison.
T'es pas obligé. Regarde aujourd'hui Kevin De Bruyne. Il a le rôle de numéro 10 dont tu parles. Et pourtant, il joue pas numéro 10. Il peut partir d'un côté. Un Riyad Mahrez qui joue ailier droit. C'est un passeur hors pair. Il peut te faire 15 passes. Et Ronny Lopez peut être ce joueur qui vous manque.
Ce qui manque à Eric, c'est Yohan Mikou. Et on est bien d'accord.
Voilà. Diego.
Ou Diego, par exemple.
Il a dit un canois. Non, surtout pas.
Zidane, tu prends ou pas?
Il te manque un Dominique Olagnier, c'est ça?
Au Bibiche.
Ouais, Bibiche, à rigueur.
Et voilà.
Non, mais sans tomber dans la nostalgie de Nice, mais je sais pas, il n'y a pas de personne qui est capable de faire la vraie dernière passe.
Non, mais il faut le créateur. Un créateur.
Un peu de cul avec Cyprien, un peu de cul avec. Comme ça vient, quoi. Mais on peut pas faire une soirée que du cul, quoi.
Bon, merci. Merci, Eric. Ouais, sinon, on bosse.
Ça se passe bien, toi, sinon, à ce niveau-là, Eric.
Pardon, point de vue cul, ça va. Je parle doucement, elle m'a fait à côté. Hein.
Messieurs, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. On te souhaite une très belle soirée et puis une belle saison à l'Allianz Riviera.
À huis clos, pardon.
Avec cette équipe. Merci, Eric. On te souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Un dernier mot, là, messieurs, si vous aviez un profil à choisir, Damien, Kevin, pour renforcer cette équipe niçoise, un joueur, un coup de cœur qui pourrait vraiment apporter quelque chose, justement, pour casser ce jeu un peu stéréotypé niçois, en tout cas sur ce qu'on a vu sur les matchs amicaux. Hein.
Alors, moi, j'ai pensé un joueur. Attention, il est blessé, il va pas revenir tout de suite, mais il faudra suivre sa réhabilitation physique. Mais tu vois, un Rémi Cabella, pour voir Cabella en France, à Nice, ce serait un joueur intéressant dans sa qualité de passe et mettre sur orbite Dolberg.
Non, mais pour les noms qu'on entend sont pas idiots du tout. Un Konogbia dans un certain rôle et puis un Ronny Lopez. Je trouve que c'est très bien ciblé, en tout cas. Les manques sont ciblés et les solutions sont pas idiotes, quoi.
Merci messieurs, voilà pour le débat sur l'OGC Nice. On revient à 23h. On va parler de Pablo Longoria, le nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille. On vous présentera d'abord le profil de cet homme que le grand public ne connaît pas forcément. Vous nous appelez également pour débriefer les matchs de Marseille qui s'est incliné 2-1 face à un club slovaque. Angers-Bordeaux, 1-0. Lille qui s'est incliné face à Bruges, 2-0. Le Standard de Liège, donc, et Nice, eh bien c'est Nice qui l'a emporté 2-1. On vient d'en parler. Et puis Brest a battu le Stade Briochin 1-0. Voilà pour les équipes françaises. 0-0 entre Anderlecht et Nantes également tout à l'heure. Il y a également des directs actuellement. Ça joue notamment en Italie. Ça jouait un petit peu plus tôt dans l'après-midi en Serie A. Et vous signalez que l'Inter s'est imposé 3-0 face au Genoa. Le Genoa qui continuera de jouer jusqu'au bout pour se maintenir en Serie A. Victoire de 2-1 de Parme face à Brescia. Et puis, il y a, après 50 minutes de jeu, 1-0 entre le Napoli et Sassuolo. Et puis, vous le savez, c'est l'événement de ce soir, puisque c'est plus important que la Coupe de France. En France, Fort Boyard est plus important. Hein. C'est des missions qui sont enregistrées depuis longtemps, hein, donc on peut les mettre quand on veut. Mais on a quand même mis les finales le vendredi. On vous signale que les indices dans Fort Boyard, c'est essai, sable et poisson.
Et voilà. Et c'est qui lui là, celui qui fait de la bouffe dégueulasse là, dans Fort Boyard
Willy Revelli.
Voilà, il y a encore, je crois, il n'est pas en conflit normalement avec Fort Boyard, il me semblait. J'ai cru par ça.
Non,
il y a
c'est Lalanne. C'est Lalanne. Ah, c'est Lalanne. Philippe Lalanne qui est en conflit. Okay. Francis Lalanne. Francis Lalanne.
On les appelle comme on veut.
Qui est en conflit.
Le prénom.
Voilà.
Ça sent Mercato,
tout ça. En tout cas, c'est l'explication qu'on nous donne pour mettre les finales les plus importantes du championnat. En tout cas, de l'Hexagone, le vendredi. On revient dans l'affaire, à tout de suite.
RMC. L'After Foot.